Bonjour Monseigneur Bertrand Lacombe.
Bonjour Anne-Rose.
Vous êtes l'archevêque d'Auch et aujourd'hui, eh bien, on a la grande joie de vous avoir au micro de Radio Présence depuis Lourdes, puisque c'est l'assemblée plénière des évêques de France et nous faisons cette interview en face de la grotte, de l'autre côté du Gave. On profite de votre venue à cette assemblée, de votre participation à cette assemblée de printemps pour faire notre petit entretien mensuel ou trimestriel. On va justement faire un petit point sur ce que vous vivez cette semaine avec vos confrères évêques. La semaine a commencé par une session tout à fait particulière, puisqu'il s'agissait de faire une relecture de l'engagement des évêques sur tout le travail qui a été fait depuis 3 ans dans le chantier de la lutte contre les abus. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette session? Qu'est-ce que vous avez vécu? Comment vous l'avez vécu? Et peut-être que quelqu'un de votre diocèse a participé avec vous?
Oui, alors en effet, il y avait beaucoup d'invités, on était un peu plus de 300, et donc il y avait une personne par diocèse qui était invitée, ce que l'on appelle le DEPLA, ce n'est pas un nom qui est très beau, c'est délégué épiscopal pour la lutte contre les abus ou contre les agressions. Et dans le diocèse d'Auch, ça a été pendant longtemps le vicaire général, et depuis peu maintenant, j'ai appelé une personne compétente, infirmière, engagée pastoralement auprès des jeunes et d'autres manières. Il s'agit de Bernadette Saliou à Auch, et qui fait partie déjà de l'équipe prévention, et qui a participé pendant cette journée et demi, lundi et mardi matin, de relecture de la manière dont l'Église s'est engagée après le rapport de la SIAZ. Alors c'est vrai que nous pouvons nous dire à certains moments, mais pourquoi on reparle toujours de ces questions? Disons, pour certaines personnes, c'est difficile d'entendre que nous nous repenchons sur cela, mais nous voyons qu'il y a un changement de culture. Qu'enfin, depuis une vingtaine d'années, mais plus particulièrement depuis les années 2015 et depuis le rapport de la SIAZ, les personnes victimes ont été mises au centre. Enfin, les personnes victimes ont été écoutées, et cela nous conduit à prendre un certain nombre d'engagements. Je dirais qu'on passe de l'aveuglement ou de la honte, même si cet aveuglement peut continuer par certains côtés, même si cette honte peut continuer par certains côtés, mais à une attitude qui est davantage une attitude de prévention, davantage une attitude qui vise à accompagner les personnes. On ne peut pas tout prendre en charge, mais on peut prendre notre part dans l'accompagnement des personnes sur un chemin de restauration. Il y a aussi l'accompagnement des agresseurs, et ça aussi, c'est un aspect important. Donc, nous avons vu après, notamment avec la Civise, mais aussi avec d'autres engagements de la société civile ou de l'État, que ce n'est pas des questions, mais je dirais plutôt dans un certain nombre de situations de drame, et nous le voyons particulièrement avec Betaram, c'est des personnes, c'est des enfants, c'est des vies qui ont été brisées, et donc il convient vraiment de s'y pencher, et nous avons pu voir qu'il reste du chemin à parcourir, mais qu'on est dans un changement de mentalité, et dans nos diocèses, tous ceux qui sont en lien avec des enfants, avec des personnes fragiles, eh bien, il leur est demandé le bulletin B3, c'est le bulletin, l'extrait de casier judiciaire. C'est normal, ça fait partie des pratiques.
Et ça, c'est reçu comment de la part de ces personnes qui sont engagées, qui se mettent au service et à qui on demande de montrer la preuve de leur bon état d'esprit?
Eh bien voilà, les personnes qui sont au service, les bénévoles, elles donnent du temps, elles donnent de l'énergie et elles manifestent leur désir vraiment d'être au service d'une église sûre. Et être au service d'une église sûre, c'est tout simplement montrer ce bulletin B3, signer une charte de bientraitance, faire la formation Stop Abus, et même si on peut la faire ensemble, en communauté, c'est une bonne chose. Nous avions, avec l'enseignement catholique diocésain, un séminaire au mois de novembre sur l'EARS, c'est pas très beau comme nom, c'est l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, et nous voyons combien c'est c'est important que eh bien, il vaut mieux prévenir que guérir. Et on est engagé aussi, non pas pour guérir, mais pour entrer sur des chemins de restauration et guérir si possible. Mais en tout cas, ces deux aspects de chemin de restauration, prévention, on voit que du chemin a été parcouru, il reste des choses à faire, mais on voit combien c'est important pour la dignité des enfants, pour la dignité des personnes, que l'Église soit engagée auprès de ceux qui souffrent, de ceux qui vivent cette épreuve, de ces vies qui, certaines fois, ont été vraiment brisées.
Moi, je voudrais savoir, sur cette question-là, comment vous, en tant qu'évêque, vous l'avez vécu, comment vous le vivez, puisque si je comprends bien, depuis le rapport de la SIAZ, eh bien, vous, en tant qu'évêque, vous avez dû vous engager et engager tout votre diocèse, à la fois dans l'accompagnement des personnes victimes qui sont venues expliquer, exprimer, poser des mots, enfin, sur ce qui leur était arrivé. Donc, il y a tout ce côté d'accompagnement. Et puis, il y a aussi tout un travail pour mettre en place des tas de mesures de prévention pour que ça n'arrive plus. Alors ça passe par la formation et par beaucoup d'autres choses que vous venez de mentionner, mais au fond, un évêque, quand il est ordonné, il n'est pas préparé à tout ce travail-là. Comment vous l'avez vécu? Est-ce que c'est quelque chose dont vous parlez avec vos confrères évêques?
Oui, bien sûr, nous en parlons beaucoup, nous en parlons aussi dans la vie du diocèse. Alors je dirais, à chacun sa place, à chacun sa formation, à chacun ses compétences. Il n'est pas demandé aux responsables pastoraux de faire des enquêtes, surtout pas. Il ne leur est pas demandé de faire des choses qui reviennent à la justice. Par contre, je dirais, comme on a ce souci de la croissance des enfants, de la croissance spirituelle, de la croissance humaine, des enfants et des jeunes qui nous sont confiés, des personnes fragiles, les accompagner aujourd'hui, c'est être attentif à un certain nombre de choses, c'est rendre compte de sa mission auprès de responsables, et c'est aussi pouvoir en parler avec eux quand telle ou telle attitude est préoccupante pour l'éducateur. Et donc, on n'est jamais tout seul dans ces situations-là, mais je dirais qu'aujourd'hui, on est attentif à ce qui est préoccupant dans la vie des enfants et des jeunes. Et je crois que c'est vraiment regrettable d'avoir en payé le prix que les personnes victimes ont vécu dans un silence vraiment très éprouvant pour eux. Mais je crois qu'aujourd'hui, nous sommes davantage à notre place, nous sommes davantage des éducateurs chrétiens, nous sommes davantage au service de la croissance des enfants et des jeunes quand on est formé et quand on est attentif à ce qui nous préoccupe dans la vie des enfants et des jeunes. Et après, on saisit les instances, que ce soit les cellules de recueil d'informations préoccupantes dans les départements, que ce soit, si nécessaire, le tribunal, puisqu'on a j'ai signé un protocole avec le procureur de la République. Donc, voilà, il y a des procédures qui sont faites et qui font partie de la vie normale. Et si ça peut arriver ponctuellement pour telle ou telle personne, pour qui c'est difficile, eh bien, c'est important d'en parler avec elle et lui dire « Mais pourquoi ça vous paraît difficile? Qu'est-ce qu'il en est ?» Et quand on fait preuve et quand on œuvre dans la pédagogie, eh bien, on se rend compte que finalement, on est davantage à sa place comme éducateur chrétien.
Merci pour ce point-là sur cette session. C'était très important de revenir sur cette relecture de l'engagement que vous avez avec tous les évêques de France pour lutter contre les abus au sein de l'Église. Alors, on va parler d'un deuxième point important de cette session de printemps. C'est le vote du nouveau président de la Conférence des évêques de France, puisque à partir du 1er juillet, c'est Mgr Aveline, le cardinal Aveline, qui sera à la tête de la Conférence des évêques de France. Grande nouvelle. Bonne nouvelle.
Oui. Alors, pour faire, je dirais, la transition, il faut rendre hommage à Mgr Éric de Moulin-Beaufort pour tout son engagement pendant ces 6 années. Et je pense particulièrement à ce que nous évoquions, la lutte contre les agressions sexuelles, spirituelles, de pouvoir. Et nous continuerons de manière résolue et déterminée ce combat en continuant notre compagnonnage avec les personnes victimes. victimes et avec les instances qui peuvent les accompagner. Mais en effet, le mandat arrive à son terme et donc c'est le cardinal Jean-Marc Aveline qui a été élu comme président de la Conférence des évêques. J'en suis heureux à titre personnel parce que ça a été mon enseignant quand j'étais séminariste au séminaire universitaire à Lyon. Et puis j'ai eu l'occasion de le rencontrer à différents moments dans ma formation et puis ensuite dans mon parcours. Ça lui arrivait de venir à Béziers quand j'étais curé à Béziers, ça m'est arrivé de l'accueillir et au presbytère. Et puis c'est lui qui a ouvert la messe du jubilé des diacres à Rome il y a très, très peu de temps, quelques semaines. Donc c'est vraiment une personne en qui, comme mes frères évêques, j'ai confiance pour porter la voix des évêques, je dirais à la fois la voix, mais aussi l'écoute, parce que c'est important d'être à l'écoute. Il est originaire de Marseille, il est archevêque de Marseille, donc ça montre cette capacité à être issu d'un peuple et d'en devenir le pasteur, et puis engagé de différentes manières. C'est lui qui a fait venir le pape François à Marseille il y a peu de temps, comme l'a fait aussi Mgr Bustillo à Ajaccio, mais on sent que vraiment c'est un homme d'église, engagé pour le bien de l'Église, pour le bien des chrétiens et beaucoup plus largement.
Un de ses engagements, on le connaît comme étant aussi un homme qui s'engage dans l'accueil des migrants, aussi dans le dialogue interreligieux. Ça, ce sont des notions qui vous semblent importantes pour les années qui arrivent là, dans la vie de l'Église de France ?
Bien, c'est important pour toute la société. C'est des questions vraiment qui comptent beaucoup. Parmi les migrants, il y a beaucoup de chrétiens, mais il n'y a pas que des chrétiens. Et pour les personnes qui sont contraintes à quitter leur patrie, leur pays, et dont on sait les conditions effroyables qu'elles rencontrent sur les routes et sur les mers du monde, bien sûr une préoccupation. Et nous voyons que nous évoquions les personnes agressées, les migrants. On pourrait aussi continuer la liste des personnes fragiles et des personnes fragilisées.
Dans le monde rural, vous en côtoyez aussi, vous, évêque du Gers. Mais c'est pas les mêmes fragilités, mais ce sont aussi des fragilités.
Voilà, et donc l'Église est vraiment se tient aux côtés de toutes ces personnes, celles qui sont proches, bien sûr, mais également celles qui sont loin.
Alors un dernier point, alors vous avez abordé beaucoup de points avec vos confrères évêques, mais un dernier point qu'on va aborder aujourd'hui dans cette interview, c'est l'intelligence artificielle, puisque c'est un sujet que vous avez travaillé en session avec tous les évêques réunis à Lourdes la semaine dernière. Donc comment l'intelligence artificielle peut être mise au service de l'annonce de l'Évangile ? D'abord, est-ce que ce serait une bonne idée de mettre l'intelligence artificielle au service de l'annonce de l'Évangile ?
Alors je dirais qu'elle l'est déjà. Si vous tapez sur un site, un moteur de recherche d'intelligence artificielle, vous aurez un certain nombre d'éléments concernant la vie de l'Église. Mais je dirais, il y a deux aspects. Il y a un aspect qui, comme tout outil nouveau qui arrive, eh bien, il faut s'y faire. Et donc, voilà, ça demande une formation, ça prend du temps. Mais il y a quand même un aspect spécifique qui est lié à l'intelligence artificielle. C'est que jusque-là, et ça concerne aussi les médias d'un certain côté, jusque-là, nous avions, vous savez, au début, il y avait les journaux d'information, les semaines religieuses, et puis il y a eu les radios, et merci à Radio Présence, il y a eu un certain nombre de médias qui sont là. Mais là, c'est un univers informationnel qui est gigantesque. C'est vraiment un océan qui est ouvert et qui est ouvert à tout le monde, tant pour la production d'outils que pour la recherche. Et donc, en plus du fait de s'acclimater, je dirais, à l'intelligence artificielle, il y a le fait d'être présent sur ce domaine-là.
C'est une mission aussi pour les chrétiens d'être présents, de ne pas avoir peur de ces outils.
Bien sûr. Il ne s'agit pas d'être surplombant, mais il s'agit d'être attentif aux informations qui sont données et de voir comment répondre au mieux aux personnes qui sont en quête d'intelligence artificielle. Donc vous voyez, il y a à la fois s'habituer à un outil, mais aussi comment être présent dans cet outil qui est vraiment un continent d'informations.
Merci beaucoup, Mgr Bertrand Lacombe. On vous retrouve la semaine prochaine pour d'autres nouvelles. Vous nous parlerez de votre diocèse du Gers. Vous nous donnerez quelques rendez-vous à ne pas manquer dans votre joli diocèse. À bientôt, Mgr.
À bientôt. Merci, Anne-Rose.